fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Maë Burla.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci, nous nous retrouvons pour parler des directrices et directeurs d'école. Leur mission, nombreuses et variées, les place à l'interface entre institutions, équipes pédagogiques, parents et collectivités locales. Nous aurons avec nous tout à l'heure pour en discuter deux invités, Élise Thiébaud et Peggy Neuville. Mais avant de les retrouver, c'est l'heure de la chronique biblio de Claire Jordanengo. Bonjour Claire.
Bonjour Maë.
Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un classique de l'éducation, c'est bien ça ?
Tout à fait. J'ai apporté aujourd'hui « De l'éducation des filles » de Fénelon. Donc c'est un livre qui est paru en 1687, mais dont les textes et les idées circulaient déjà un tout petit peu avant. Et du coup, j'ai apporté, puisque la bibliothèque d'Hydrault conserve la première édition, je vous ai apporté celle-ci. Donc c'est un petit format relié en cuir avec les armoiries de la famille Vincent de Mauléon, donc originaire du comtat venaissin. Et c'est donc une petite reliure soignée, fin 17e.
Mais alors, pourquoi Fénelon se lance dans la rédaction d'un tel ouvrage ?
Alors, ça lui a été demandé par le duc et la duchesse de Beauvillé, qui avaient, entre autres enfants, 8 filles. En fait, Fénelon était déjà une personne relativement bien en cour, donc il était déjà directeur spirituel de 2 maisons d'éducation, la maison des Nouvelles Catholiques, qui était destinée à faire verser dans le catholicisme des jeunes filles de familles protestantes, et une autre maison d'éducation. Il deviendra aussi le précepteur du petit-fils de Louis XIV, donc voilà, c'est un homme relativement connu à qui on peut faire appel pour ce genre de choses.
Donc la bonne personne à qui demander ça, pourtant, proposer un ouvrage pour l'éducation des filles, à l'époque, ça ne va pas de soi.
Alors, oui et non, parce que l'éducation des filles a été quand même une question déjà débattue, mais il va s'élever donc contre un certain nombre de préjugés qui entachent l'éducation des femmes, parce qu'il trouve qu'on fait beaucoup de cas de l'éducation des garçons, mais effectivement moins de celle des filles. Donc, curieusement, ça, il détaille un certain nombre de défauts du sexe féminin, mais pour lui, une grande partie de ces défauts résulte justement de cette absence d'éducation ou d'une mauvaise éducation. Et de certains préjugés, par exemple quand on dit que les femmes ne doivent pas être trop savantes, qu'elles doivent savoir obéir à leur mari sans trop raisonner, qu'il faut les garder de l'oisiveté ou qu'elles ont une trop grande imagination. Mais par un autre aspect, il voit bien que les femmes sont les piliers de la société et si elles sont mal élevées, les hommes qui les entourent, c'est-à-dire leurs fils, leurs maris, le seront également. Et il y a également une composante chrétienne, c'est-à-dire que les femmes sont la moitié du genre humain qui est racheté par le sang du Christ, comme il dit, donc qui est tout aussi chrétienne que l'autre partie. Après, il ne s'agirait pas d'en faire un homme trop moderne. Hein. Les femmes ont d'ordinaire l'esprit plus faible que les hommes, peut-on lire, ainsi que diverses autres remarques, comme nous allons l'entendre dans l'extrait qui suit.
De l'éducation des filles, chapitre 9. Remarque sur plusieurs défauts des filles. Nous avons encore à parler du soin qu'il faut prendre pour préserver les filles de plusieurs défauts ordinaires à leur sexe. On les nourrit dans une mollesse et dans une timidité qui les rend incapables d'une conduite ferme et réglée. Il faut aussi réprimer en elles les amitiés trop tendres, les petites jalousies, les compliments excessifs et les flatteries, les empressements, tout cela les gâte et les accoutume à trouver que tout ce qui est grave et sérieux est trop sec et austère. Il faut même tâcher de faire en sorte qu'elles s'étudient à parler d'une manière courte et précise. Le bon esprit consiste à retrancher tout discours inutile et à dire beaucoup en peu de mots, au lieu que la plupart des femmes disent peu en beaucoup de paroles. Elles prennent la facilité de parler et la vivacité d'imagination pour l'esprit, et elles ne choisissent point entre leurs pensées. Elles n'y mettent aucun ordre par rapport aux choses qu'elles ont à expliquer. Elles sont passionnées sur presque tout ce qu'elles disent, et la passion fait parler beaucoup. Cependant, on ne peut espérer rien de fort bon d'une femme si on ne la réduit pas à réfléchir de suite, à examiner ses pensées, à les expliquer d'une manière courte et à savoir ensuite se taire.
Oui, donc effectivement, pas trop moderne non plus, hein, Fénelon. Et dans cet ouvrage, il s'intéresse aussi aux enfants et à leur développement, c'est ça ?
C'est-à-dire que le début du livre, pendant environ 5 chapitres, il va parler effectivement des petits-enfants, garçons et filles mélangés. Et il ne fait pas vraiment de différence entre les sexes, il pense qu'ils ont les mêmes capacités de développement intellectuel. Il va être un observateur assez attentif de ses enfants. Enfin, il exprime le fait qu'ils ont un cerveau malléable, des impressions qui s'imprègnent rapidement, qu'ils ont un côté très versatile, et il va s'appuyer finalement sur toutes ces petites caractéristiques des enfants pour proposer des préceptes d'éducation. Par exemple, qu'il ne faut pas hésiter à instruire indirectement, sans pédantisme, faire apprendre en jouant lorsque c'est possible, user des fables et des récits, par exemple de l'histoire sainte, parce que quand on leur fait faire des sortes de scénettes, par exemple, ils apprendront plus facilement. Donc, pas trop de différence chez les tout-petits, enfin pas de différence entre filles et garçons.
Et donc, quand est-ce qu'ils commencent à repérer des différences du côté des filles et à les énumérer ?
Alors, dans le livre, ce sont les derniers chapitres. Ils ne donnent pas vraiment d'âge, hein, mais on peut supposer que c'est l'équivalent de l'adolescence chez nous. Donc il va surtout donc s'intéresser à l'éducation de ces jeunes filles après avoir fait un bon petit catalogue de leurs défauts principaux. Donc il va condamner un certain nombre de choses comme l'attention portée à la beauté, à la parure, le plaisir de plaire, etc. Il insiste aussi bien sur le fait qu'il faut être instruit en fonction de sa condition, de son emploi. Donc pour une femme, elle doit savoir mener une maison, une domesticité. Pour cela, il va falloir qu'elle s'y connaisse en économie, qu'elle ait des préceptes religieux, qu'elle connaisse par exemple un petit peu de droit, mais sans entrer à fond dans la discipline. Il y a des disciplines même entières dont elles peuvent se tenir éloignées, comme la philosophie ou la science. En revanche, savoir lire, écrire, connaître sa grammaire, étudier l'histoire profane ou ancienne pour y trouver des exemples, ça c'est très important. Il condamne curieusement également la musique. Fénelon est conscient que c'est un programme d'éducation idéal, qu'aucune famille ne pourra exactement atteindre, mais on peut gagner à essayer de donner cette éducation à ses filles. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a connu un certain nombre de rééditions tout au long du 18e, et même si Fénelon n'a pas été le seul à écrire sur l'éducation des femmes, c'est un livre qui a fait date.
Eh bien, merci beaucoup Claire pour cette chronique. Je ne sais pas si on va pouvoir parler de Fénelon en plus grand féministe, mais en tout cas, on sait maintenant plus sur la manière dont était considérée l'éducation des filles au XVIIe siècle. Alors, les directeurs et directrices dont on va parler aujourd'hui ne pilotent pas des écoles pour filles, mais bien des écoles mixtes. Hein. C'est la thématique qui nous rassemble pour ce numéro d'IF et quoi, non pas la mixité à l'école, mais bien la direction d'école et les missions propres à cette fonction clé dans le fonctionnement des établissements de maternelle et du primaire. Nous recevons sur notre plateau pour échanger sur la question deux invités. Alors, Élise Thiébaud, vous êtes professeure des écoles, mais surtout aujourd'hui directrice, puisque vous avez une décharge complète de l'école Jean Guénaud à Saint-Fons. C'est un établissement qui accueille des élèves de la maternelle au CM2, classé en réseau d'éducation prioritaire d'IREP+, et que vous pilotez depuis maintenant 15 ans. Bonjour.
Bonjour, merci pour cette présentation.
Peggy Neuville, vous êtes également avec nous sur le plateau d'IF et quoi aujourd'hui. Vous êtes chargée de médiation scientifique au sein de l'équipe Veille et Analyse IF et ENS de Lyon. Vous avez publié en novembre dernier un dossier de veille, nouvellement renommé et du revue, sur les fonctions de directeur-directrice d'école intitulé « Direction d'école, une question d'équilibre ». Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, quel rôle tiennent les directeurs et directrices d'école ? Comment jonglent-ils entre leurs différentes missions ? Comment trouvent-ils l'équilibre, comme le suggère Peggy Neuville dans le titre de l'édu revue consacré à la thématique ? On va tenter de répondre à ces différentes questions. Peut-être pour commencer, Élise Thiébaud, être directrice d'école, c'est quoi ? Quelles sont vos missions ? À quoi ressemble le quotidien de votre profession ?
Alors, ce métier est extrêmement varié et riche, mais les missions peuvent se résumer en trois grandes fonctions. Les missions qui vont être de l'ordre de la responsabilité pédagogique et qui vont amener des compétences pour le directeur en termes d'animation, d'impulsion et de pilotage. Des responsabilités qui vont être relatives au fonctionnement de l'école, c'est ce qu'on va mettre sous le chapeau de l'administratif. Et puis tout ce qui va être l'aspect relationnel avec les parents d'élèves, les partenaires de l'école, la mairie, les services de santé, les intervenants extérieurs, les associations et beaucoup d'autres.
Alors, je l'ai précisé, vous avez, vous, ce qu'on appelle une décharge complète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et comment ça fonctionne pour les directeurs et directrices qui n'ont pas la même décharge ?
Alors, du coup, je suis déchargée d'enseignement parce qu'il y a 17 classes dans mon école. Donc, grande école, beaucoup d'élèves, beaucoup de choses à régler, donc cette décharge, elle est importante. Dans l'imaginaire collectif, le directeur, il est libre et il est disponible parce qu'il n'est pas en classe, mais dans la réalité, on est souvent très occupé dans la journée par la gestion du quotidien en lien avec les différentes fonctions énoncées, mais surtout pour la gestion des imprévus et des urgences qui arrivent tous les jours. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, je suis dérangée ou arrêtée dans mon travail toutes les 10 à 15 minutes, soit par un enfant, un élève, un parent, un enseignant, le gardien, un livreur. Ça peut être juste une information qu'on me donne et je peux me remettre au travail, mais ça peut être aussi, ça peut nécessiter un déplacement ou une intervention et là, ça me coupe dans mon travail que je retrouve une demi-heure ou 40 minutes après. Du coup, le temps que je passe à faire ça, il n'est pas perdu, il est pris sur d'autres choses, mais la to-do list du début de journée ou de la journée est rarement respectée.
Et vous êtes bien occupée, effectivement. Peggy Neuville, on vient de l'entendre à travers le témoignage d'Élise Thiébault. Les missions d'une directrice d'école sont nombreuses, variées, et elles sont vous êtes souvent sollicitées. Mais c'est une fonction qui a évolué dans le temps avec la succession de différentes lois. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces évolutions? Comment elles ont modifié les missions de direction d'école?
Oui, alors pour revenir un petit peu, déjà rebondir sur ce que vient de dire Élise, je dirais aussi, avant d'introduire un petit peu une historique de la fonction, que cette question de la décharge aussi, elle se pose parce qu'il y a une spécificité du premier degré sur la fonction de direction d'école, qui contrairement au second degré, où on a des chefs d'établissement qui ont un statut particulier et qui sont uniquement, entre guillemets, c'est un chef d'établissement, c'est vrai que les directeurs et directrices d'école, ils ont la casquette d'enseignant, en fait. Ils ont cette fonction à côté, donc avec une décharge complémentaire ou pas, et ils se retrouvent souvent seuls pour assumer cette fonction par rapport, pour toujours continuer à faire le parallèle avec le second degré, où ils vont avoir une équipe de direction pour les accompagner, avec par exemple un principal adjoint, un CPE, des surveillants, une équipe de vie scolaire. C'est vrai que le directeur, il a aussi cette casquette là que vous parliez du fait qu'il est tout seul pour assumer cette fonction. Et finalement, cette spécificité du premier degré, elle s'inscrit un petit peu, on la comprend un peu quand on voit l'historique de la fonction. En fait, c'est une fonction qui s'est institutionnalisée avec la loi Goblet en 1886, où les directeurs avaient une autorité au départ forte, où ils avaient des responsabilités à la fois disciplinaires, mais pédagogiques aussi. Ils avaient vraiment un contrôle sur les instituteurs et institutrices, et aussi organisationnel de l'école. Donc c'était vraiment un contrôle fort. Et puis petit à petit, cette autorité, elle a été progressivement remise en question avec, au début du XXe siècle, la montée en qualification des instituteurs qui ont été formés en école normale et qui ont remis en cause finalement cette légitimité pédagogique qui était attribuée aux directeurs et aux directrices. Alors ça a créé des tensions, et des tensions parfois fortes. Et pour apaiser ces tensions, en fait, le ministère a introduit en 1908 le Conseil des maîtres. Et le Conseil des maîtres, c'est un peu cette spécificité justement du premier degré, puisque c'est ce qui a permis d'introduire un espace de collégialité dans le premier degré et de régulation collective, et qui, plus d'un siècle après, est un peu le marqueur et qui explique un peu en partie pourquoi le directeur ou la directrice d'école n'est pas le supérieur hiérarchique et garder cet esprit d'un père parmi les pairs. Et puis, on a un grand bloc historique comme ça jusqu'à la fin des années 80. Et puis, finalement, le directeur est devenu plus le gestionnaire matériel et administratif de l'école. Et puis, on passe à partir des années, début des années 90, avec notamment à partir de 89, la loi Jospin, on change, on a vraiment un changement de paradigme éducatif, où on rentre dans une logique de projet d'école, d'évaluation, de pilotage, avec aussi la loi sur l'inclusion de 2005, l'obligation d'accueillir des élèves en situation de handicap, hein, avec la loi de 2013, égalité des chances. Donc tout ce qui fait qu'on arrive au référentiel de 2014 et par rapport à ce que soulignait Élise sur les trois grandes fonctions qui sont encore les fonctions principales, qui sont la responsabilité pédagogique, le fonctionnement de l'école et les relations avec les familles et les partenaires.
Et malgré en fait les évolutions récentes, en fait, vous le rappeliez, Élise Thébault, vous restez en fait beaucoup accaparée par des tâches administratives qui représentent pour vous une grande part de votre temps de travail.
Effectivement, l'administratif, c'est une partie qui est relativement chronophage, parfois ingrate parce qu'elle est non visible dans le travail du directeur, que ce soit par les collègues ou par les parents. À titre indicatif, on a la gestion des appels, des SMS, des mails qui peuvent être entre 50 à 80 par jour, répondre aux enquêtes, aux recensements, la mise à jour des bases de données, des inscriptions d'élèves, des radiations, les documents administratifs, les comptes rendus, les budgets, les commandes. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, la liste est très très longue et rien que ça, la journée pourrait suffire à remplir uniquement ces missions administratives. Mmh. Comme l'a dit Peggy, on est des mini-collèges. Là où j'enseigne, on est sur des écoles entre 300 et 450 élèves. Effectivement, on est seul à gérer tout ça. Et à l'inverse, mes collègues directeurs qui n'ont pas de décharge d'enseignement complète, eux doivent accomplir ces missions en plus de leur travail d'enseignant.
Alors, je vais vous proposer d'écouter un premier extrait avant de continuer notre échange.
La directrice, elle est responsable d'un certain nombre de nos actions, en particulier de nos sorties. Donc on est obligé de la solliciter, on est obligé de lui demander son avis et sa signature pour un certain nombre de sorties. Et puis après, c'est quand même elle qui pilote les projets de l'école. Donc en général, quand on a des projets, on lui demande son avis.
Et au niveau de l'organisation des transports aussi? Elle met en place les transports quand on va quelque part.
On se réunit, on se met d'accord sur les objectifs et les actions. Et après, Nathalie, elle fait l'intermédiaire entre notre projet d'équipe et la hiérarchie, l'inspection, pour obtenir les accords s'il y a besoin d'accords. Donc c'est elle qui prépare par écrit les projets.
Alors ça vous fait réagir, Élise Thiébault, cet extrait ?
Ça correspond à mon quotidien. C'est la charge du directeur d'école qui est vraiment à l'interface de tous les différents partenaires, les enseignants, la circonscription, notre hiérarchie et les autres partenaires. Oui.
Alors, ce qui est mentionné, c'est qu'en tant que directrice d'école, vous êtes chargée de faire le lien entre institution et équipe pédagogique. Vous portez, vous transmettez et aussi vous faites appliquer les prérogatives de l'éducation nationale. Et inversement, vous faites remonter certaines choses. Qu'est-ce qu'on attend de vous spécifiquement sur ce plan-là et comment fonctionnez-vous avec vos équipes pédagogiques et quelles sont les attentes de l'institution en fait ?
Donc le directeur est vraiment l'interlocuteur premier pour l'inspecteur. Il y a et doit y avoir un dialogue proche entre lui et la circonscription, et conseiller pédagogique et inspecteur, pour pouvoir amener auprès des collègues les demandes et les commandes institutionnelles qui passent la plupart du temps par nous. Ces commandes-là, elles doivent être travaillées en équipe au sein d'instances comme les conseils des maîtres et les conseils de cycle. Et le rôle du directeur va être d'animer ces temps-là, d'impulser de la réflexion. Et le fait de connaître son équipe va permettre aussi d'arriver aux commandes qui sont faites ou en tout cas aux demandes de notre institution.
Donc pour vous, c'est être proche de votre équipe qui va être le plus important pour être capable de répondre à cette demande-là, c'est ça ?
C'est être proche de l'équipe et connaître la manière de travailler de mes collègues. Je sais que j'ai des collègues qui vont être plutôt réservés, d'autres plutôt leaders, d'autres plutôt réfractaires. Donc c'est aussi m'appuyer sur leur caractère, leurs compétences, leurs qualités pour créer un collectif et pouvoir mettre en œuvre ce qu'on nous demande de mettre en œuvre.
Ça demande un peu de diplomatie parfois. Est-ce que c'est périlleux d'apporter certaines demandes institutionnelles auprès de collègues ?
Oui, il m'arrive de leur dire que je ne suis pas le pigeon à abattre. Je transmets une information à laquelle on attend une réponse de notre part. Il y a aussi un côté loyauté, je pense, dans la mission de directeur à transmettre des informations et à répondre aux demandes qu'on nous demande.
Peggy Neuville, dans votre revue, vous parlez, pour désigner cette fonction d'interface entre institution et équipe pédagogique, d'une logique qui serait en fait managériale, c'est le terme que vous utilisez. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'institution, manager une équipe pédagogique ?
Finalement, cette logique managériale, c'est celle qui est, on va dire, portée par l'institution avec des réformes, des prescriptions, des exigences de pilotage, de résultats, à partir des évaluations d'école, des élèves maintenant. Et de l'autre, la logique qu'on pourrait dire plus pédagogique, qui est portée par l'équipe pédagogique, qui est centrée sur leur apprentissage, leur classe, leurs élèves, et le travail qu'ils vont faire finalement au sein de leur propre classe. Et c'est vrai que le rôle n'est pas simple pour la direction d'école, parce qu'elle doit être un relais entre l'institution, donc à la fois avoir un rôle de traducteur, de médiation en fait, par rapport à cette logique managériale. Et en même temps, comme vous le soulignez, c'était essayer d'avoir l'adhésion de l'équipe, qui n'est pas forcément automatique. Pour beaucoup d'enseignants, il faut arriver à sortir justement du cœur de la classe, aller vers des enjeux plus collectifs, ce qui va demander pour le directeur ou la directrice des compétences plus spécifiques de pilotage, d'animation, de formation, et d'aller plus vers des projets communs finalement, et dépasser les logiques qui peuvent être individuelles parfois.
Et quand vous parlez d'attente de résultats des écoles, on parle de quoi exactement comme type de résultats ?
Par exemple, l'exemple qui me vient le plus flagrant, ce serait le projet d'école, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui va être construit pour plusieurs années, dans laquelle on fait un constat de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On va proposer des actions avec des indicateurs, une évaluation chaque année pour voir un peu est-ce qu'on avance dans le bon sens, si on a des résultats.
Élise Thiébaud, vous êtes directrice d'un établissement classé en zone d'éducation prioritaire, dirais-je plus, pour lequel il existe des dispositifs spécifiques, dont on attend aussi que vous transmettiez les résultats, et des résultats positifs, j'imagine. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ? Est-ce que vous parvenez à répondre à ces attentes institutionnelles ?
Alors, depuis plusieurs années, on a la chance en éducation prioritaire d'avoir des classes dédoublées en grande section CP et CE1. Et c'est vrai que l'objectif affiché, c'est le 100% de réussite. Donc, du coup, ça nous met un peu de pression parce que l'institution attend ça de nous. L'avantage, c'est qu'on a des classes à effectifs réduits et des enseignants qui ont du temps et qui accompagnent nos élèves, mais au détriment d'un étayage et d'un surétayage assez fort. Donc oui, il y a des attentes de résultats parce que des moyens sont mis en œuvre, mais il y a un accompagnement qui doit se faire aussi sur la manière d'enseigner, la manière d'accompagner pour que ces élèves qui passent 3 ans en classe dédoublée se retrouvent ensuite dans un cursus de classe normale à 24 et gardent la plus-value de ce dispositif.
Bien sûr. Dans votre aide du revue, Peggy Neuville, vous soulignez également que les directeurs et directrices d'école sont à l'interface aussi entre équipes pédagogiques et parents. Vous parlez alors d'un rôle de médiation, aussi de soutien des enseignants-enseignantes qui par ailleurs peuvent être relativement isolés dans cette relation aux familles justement. Alors, qu'est-ce que ce rôle de médiation demande aux directeurs-directrices ? Est-ce que ça demande des compétences particulières ?
C'est vrai que c'est un rôle qui est de plus en plus important parce que la place des parents, on l'a dit tout à l'heure, depuis 89, finalement, les parents sont rentrés dans l'école et de plus en plus présents et leur rôle est important. Donc, le directeur ou la directrice d'école, il doit être là pour finalement désamorcer les tensions, favoriser un dialogue constructif, essayer de trouver un équilibre lorsqu'il y a des tensions avec certains enseignants, par exemple, qui, eux, de leur côté, peuvent se sentir démunis face à certains parents. Et on se retrouve effectivement face à de logiques. C'est vrai que pour les parents, pour eux, ils vont attendre souvent des signes visibles de ce que c'est pour eux un bon enseignant. Par exemple, ils vont juger sur les devoirs à la maison, un programme qu'ils ont l'impression qu'il avance bien, cahier bien tenu. Donc, en gros, ils vont s'attacher à des signes extérieurs de travail qui va être fondé sur le rythme de leur propre enfant. Et de l'autre côté, on va avoir une logique d'enseignant qui travaille plus sur une logique d'équité, qui vise à faire progresser l'ensemble des élèves, qui suppose d'adapter des rythmes, des modalités selon les besoins de chacun et chacune, et pas forcément sur la partie visible que peuvent avoir les parents et qui peut créer des fois des mésententes, enfin des incompréhensions.
Vous le ressentez, vous, cette tension-là entre ces deux logiques, celle des parents et des équipes pédagogiques ?
Alors, je parlerai pas de tension parce que on met vraiment à cœur d'expliciter, de communiquer avec les familles, justement pour lever ces implicites et ces non-dits et ces incompréhensions.
Cet écart, disons.
Cet écart, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que le directeur, pour les parents, il reste le supérieur hiérarchique des enseignants, ce qui n'est absolument pas le cas. Et très souvent, les parents viennent parler au directeur pour avoir des éléments de compréhension ou pour parler d'une situation complexe. Ça peut être mal vécu de la part de mes collègues qui ne comprennent pas pourquoi le parent va directement voir le directeur et pas lui instantanément. Pour moi, ce qui est important, alors je peux être médiateur et je peux accompagner, mais je ne prends pas la place de mes collègues enseignants. S'ils ont besoin d'un appui, je suis là, mais ils sont tout à fait légitimes. Il faut qu'ils aient cette légitimité à créer le dialogue avec les familles, à expliquer leur pédagogie, leur manière de travailler.
C'est vrai que vous dites là que les parents se tournent assez spontanément vers vous, mais est-ce que vos collègues aussi, vous représentez un soutien pour eux dans cette relation aux familles ?
Oui, oui, complètement. Alors, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, je suis déchargée complètement. Donc, je suis 4 fois par jour au portail et donc j'ai un lien direct avec les familles. Donc, très souvent, ce moment-là, il permet de désamorcer ou de trouver des réponses à des questions que les parents se posent et vraiment de désamorcer une situation qui pourrait empirer et dégénérer. Et à l'inverse, quand les collègues, quand quelque chose s'est passé en classe ou dans la cour, ils m'alertent et me donnent quelques éléments de réponse que je peux communiquer aux parents. Pour les rassurer ou en tout cas avoir connaissance qu'une situation un petit peu problématique pourrait apparaître.
Alors vous vous occupez aussi en tant que directrice d'école un rôle d'interface avec les collectivités locales. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
Oui Eric, salut, c'est Nathalie, ça va? Tu as passé un bon week-end? Bon, bien, nickel. Est-ce que tu n'as pas d'électricité toi non plus? Ah, tu sais s'il y a une panne organisée, enfin une coupure organisée peut-être sur la commune. Bon, ben bah écoute, on verra bien. J'espère que ça va revenir. Ça doit être assez général.
Alors, ce qu'on entend là, c'est une directrice d'école d'une petite école en Isère qui appelle son collègue à la mairie parce qu'il y a une coupure d'électricité. Vous l'aurez compris, c'est très concret et effectivement, ça introduit un type d'acteurs dont on n'a pas encore parlé, mais avec lesquels la direction d'école travaille aussi, à savoir les collectivités locales. Peggy Neuville, vous rappelez dans votre édu-revue que les enjeux pour les écoles sont très matériels dans cette relation justement avec les collectivités locales. On parle de quels enjeux exactement pour les écoles dans leur relation aux collectivités ?
Ben, en fait, les directeurs et les directrices, ils sont finalement pris entre deux pôles. D'un côté, comme on l'a évoqué déjà, le pôle institutionnel qui prescrit les objectifs, on va dire les programmes via l'éducation nationale. Et de l'autre, ben, ce pôle municipal dont on parle, qui lui détient les moyens matériels et financiers qui sont nécessaires à leur mise en œuvre. Donc du coup, les directeurs et les directrices, ils se retrouvent parfois dans des positions délicates car ils dépendent à la fois donc, de leur hiérarchie pédagogique pour les orientations et en même temps, c'est des collectivités locales qui vont finalement déterminer un peu le quotidien concret de l'école, l'équipement, la maintenance, le périscolaire. Voilà. Et du coup, cette situation que la sociologue Cécile Roux appelle la communalisation, avec du coup une dépendance de moyens, entre une différence entre celui qui prescrit et puis celui qui affecte les moyens.
Et alors avec ces acteurs-là, Élise Thiébaud, vous les rencontrez dans quel contexte, dans quelles instances? Comment est-ce que vous travaillez avec eux?
Alors, on a la chance d'avoir un gardien d'école qui est logé sur l'école et qui est vraiment mon interlocuteur privilégié pour tout ce qui va être les imprévus, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre. On a également des temps de rencontre avec les directeurs de la mairie des différents services pour évoquer soit des projets, soit des directions que veut prendre la mairie ou les actualités éducation nationale. Donc, on a vraiment la chance. Est-ce que c'est cette commune? Est-ce que c'est une mairie qui est particulièrement attentif aux écoles? D'être vraiment en partenariat et en communication. Et je le redis, le fait d'avoir un gardien d'école me soulage énormément dans tous les petits soucis du quotidien.
Et vous avez aussi dans l'école du personnel autre qu'appartenant à l'éducation nationale qui vous devez manager. C'est une spécificité.
Exactement. Ça reste une complexité aussi du métier de directeur. C'est que tout le personnel présent dans l'école est sous la responsabilité du directeur, que ce soit les enseignants, les animateurs, les agents d'entretien, le gardien. Depuis très peu, il est même inscrit que le directeur a autorité sur l'ensemble de ses personnels. Cette nouveauté, elle n'est pas forcément sue par tous ou alors acceptée par les différents agents. Ce qui est complexe, c'est qu'en tant que responsable unique de sécurité, le directeur a vraiment une responsabilité importante et lourde et que si cette information-là, elle n'est pas connue, elle n'est pas intégrée et bien transmise, elle peut impacter le travail du directeur et le mettre en difficulté.
Alors on a vu tout au long de cet échange que les directeurs et directrices d'école sont à l'interface entre institutions, équipes pédagogiques, parents, collectivités locales. Peggy Neuville, vous l'expliquiez dans votre dossier et vous nous l'avez un peu dit déjà au cours de cet entretien, que cette fonction d'interface, ce qu'elle induit, c'est de réussir à composer en fait entre ce que vous appelez des logiques d'action différentes selon ces acteurs. Est-ce que vous pouvez nous les résumer, nous les redire pour qu'on les ait bien en tête ?
Oui, alors cette logique d'acteurs différentes, c'est ce que Cécile Roux reprend sous le terme de marginal séquent, hein, où le directeur il est engagé pour l'instauration collective et il est au centre de différentes logiques. Donc on a vu la logique de l'institution qui est en logique de prescription, qui peut parfois être en tension avec ce qu'on vient d'évoquer, la logique de moyens avec par exemple la commune. On a une logique d'apprentissage, de progrès des élèves avec en tension une logique de prise en charge et d'accueil de l'enfant entre les parents et les personnes enseignantes. Et puis une logique également en tension entre l'institution et la prescription et celle de l'équipe éducative avec donc la logique managériale avec la logique plutôt pédago-éducative pour reprendre les termes de Witré Prével, les chercheurs en éducation qui ont modélisé cette tension-là.
Les Thibault, c'est toujours facile de réussir à trouver cet équilibre et à articuler.
Nous sommes des funambules. On est des funambules, des chefs d'orchestre, on est vraiment à la manœuvre et au centre de tout, ce qui fait la richesse et la beauté de notre métier. Mais en parallèle, on se sent parfois seul et on aimerait avoir plus de moyens ou plus de soutien pour accomplir nos missions parfaitement. Oui.
C'est une très jolie image en tout cas, celle du funambule. Alors peut-être avant de conclure cet échange, j'aimerais qu'on revienne sur un dernier point qui concerne les évolutions récentes de la fonction de directeur-directrice d'école. Vous avez évoqué, Peggy Neuville, les évolutions notamment liées à la loi RIAC. Quels sont les nouveaux enjeux que cette loi a introduits pour la direction d'école ?
Alors la loi RIAC, elle a été adoptée récemment en 2021. En fait, elle marque à la fois une évolution et en même temps une continuité par rapport à ce qu'on a pu dire sur l'historique de la fonction. C'est la reconnaissance de ce qu'on appelle une autorité fonctionnelle. Donc concrètement, ça signifie que les directeurs et les directrices, ils vont pouvoir désormais prendre certaines décisions en interne sur le fonctionnement de l'école. Mais ils n'ont pas pour autant encore une autorité hiérarchique, comme on l'a évoqué. Cette loi RIAC, elle a été complétée en 2023 par un décret qui va un peu plus dans le détail, justement, de la question notamment du pilotage, qui est plus mise en avant sur le rôle du directeur. Un référentiel de direction qui va bientôt sortir, normalement, cette année. Et puis, il y a plusieurs évolutions. Il y a un changement dans la formation, qui a été marqué donc en 2024, un texte qui modifie la formation, donc avec une formation obligatoire de 3 jours avant l'inscription sur liste d'aptitude et puis une formation de 3 semaines post-nomination. Il y a aussi quelque chose qui est assez nouveau aussi, un entretien professionnel spécifique qui, depuis 2024, que les directeurs et directrices avant n'avaient pas, qui vient en complément de leur entretien de carrière en tant que professeur des écoles. Et puis, je voudrais rajouter aussi en 2022 la création des référents directeurs, qui sont finalement des pairs un peu experts, on va dire, et qui sont nommés sur ces fonctions pour 3 ans, renouvelables, il me semble 3 ans, et qui sont là pour aider les jeunes collègues, mais aussi les autres collègues qui peuvent le solliciter pour des aides au quotidien.
Alors Alice Thibault, vous êtes directrice depuis maintenant 15 ans, ça a représenté un nouveau challenge, cette loi RIAC.
C'est vrai que j'ai vu en 15 ans l'évolution du métier de directeur et c'est vrai que cette loi, comme le précisait Peggy, légitime beaucoup de choses que l'on fait déjà au quotidien et le reconnaît. Donc ça, c'est une première avancée. Maintenant, cette loi, elle reste encore un petit peu confidentielle au niveau de nos collègues enseignants, de la mairie, des différents partenaires. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus mise en avant et que le rôle du directeur soit un petit peu plus imposé ou expliqué. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive sur un statut du directeur qui soit bien défini et qui nous permette de faire notre travail dans les meilleures conditions.
Eh bien, merci beaucoup Élise Thibault et Peggy Neuville d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, on en sait désormais plus sur la direction d'école et la position complexe de funambule, mais passionnante qu'elle occupe dans l'écosystème des écoles. Nous vous mettrons, si vous souhaitez approfondir le sujet, le lien vers les 2 revues, la direction d'école, une question d'équilibre au pluriel, ainsi que d'autres références en description du podcast. Mais avant de terminer cet épisode d'I fait quoi, c'est l'heure de la chronique Un mot, un chercheur. Et Louise Marguerite a tendu son micro à Samuel Renier, maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Tours, qui revient pour nous sur le terme d'expérience.
Expérience, fait de faire quelque chose une fois, de vivre un événement, considéré du point de vue de son aspect formateur. Avoir une expérience amoureuse.
Alors, on peut dire que l'expérience, c'est le fait de la vie même, dans la mesure où nous sommes des êtres constitués par les interactions, on pourrait dire par les transactions avec notre environnement. En ce sens, l'expérience, c'est donc ce qui nous traverse, nous imprègne et nous transforme. Et ici, l'étymologie, elle est intéressante parce que donc expérience, ça vient du latin exterior, et même encore avant du grec peria, qui a cette même racine indo-européenne. Per, ça veut dire essayer, oser, risquer, mais aussi traverser. Donc il y a quelque chose de l'ordre de à la fois du passage, mais aussi de l'épreuve, parfois même un peu du danger. Expérience. Est de la même famille que le mot « péril ». Et donc, voilà, il faut voir ici la dimension transformatrice de l'expérience. Alors, on peut faire une distinction néanmoins entre le fait d'avoir de l'expérience et de vivre une expérience particulière. On parlait dans la définition d'une expérience amoureuse, comme quelque chose d'unique, quelque chose de singulier. Vivre une expérience, c'est arriver à distinguer parmi la continuité de notre existence et de nos actions un moment, une situation qui vient faire rupture avec cette continuité. Alors, on pourrait mettre plusieurs mots pour caractériser cette rupture. On pourrait parler d'étonnement, parfois de difficulté, voire de malaise, d'incompréhension. Et je reprends ici tout le travail qu'a pu faire Joris Thievenaz, notamment pour caractériser ces situations. Les mots employés ici ont un sens fort. Rupture et continuité sont en effet les termes que les historiens utilisent pour penser le mouvement historique. En cela, ce qui fait expérience ne peut se comprendre que dans le rapport à l'histoire singulière de celui ou celle qui la vit. Or, toute histoire, pour se constituer comme telle, nécessite de passer par une mise en mots, en récit ou en intrigue, pour reprendre les termes de Paul Ricoeur. Donc, il est tout à fait possible de vivre une expérience sans pour être autant en capacité de dire ce en quoi elle nous a traversé ou transformé. À plus forte raison, on considère même parfois que plus on a d'expérience et moins l'on est en capacité d'énoncer ou d'expliquer l'objet même de ces apprentissages. Et sans aller chercher bien loin les exemples, on pourra sans conteste dire que le meilleur boulanger ne sera pas forcément le meilleur formateur en boulangerie, et de la même manière, le meilleur mathématicien ne sera pas le meilleur enseignant de mathématiques. D'où l'importance de pouvoir verbaliser, littéralement, mettre en verbe l'expérience. Et je reprends ici les termes employés par Mathias Girel dans un article de la revue Éducation Permanente en 2014. Donc, cette idée de mettre en mots, de verbaliser l'expérience, on pourra en donner deux exemples. Donc, c'est l'objet, par exemple, du travail de Pierre Vermersch, qui, au début des années 1990, va travailler autour de l'explicitation et même formaliser une démarche qu'il appelle l'entretien d'explicitation, comme un mouvement de travail sur l'expérience, précisément pour passer de l'implicite à l'explicite. Mais on pourrait aussi penser aux travaux développés par tout le courant de la didactique professionnelle, autour notamment des savoirs d'action, afin de permettre aux professionnels d'identifier, de mettre en mots, de valoriser et donc aussi de rendre transmissibles les savoirs d'usage, les savoirs qui sont incorporés.
Expérience. Fait, événement dont on tire ou dont on pense tirer un enseignement, une leçon, un enrichissement personnel. L'expérience lui sera profitable.
Alors effectivement, cette définition, elle est intéressante parce que elle nous amène une question supplémentaire qui serait, au fond, qu'est-ce qui rend l'expérience scolaire profitable aux enfants pour la vie hors de l'école? Et peut-être même pourrait-on aller jusqu'à dire que l'expérience scolaire est une interface vers la vie hors de l'école. Alors, dire que ou souligner que la vie de l'enfant à l'école représente une expérience, c'est quelque chose de fort. Une expérience au sens premier d'un ensemble de situations vécues au sein d'un temps et d'un espace donné. Expérience aussi au sens où le travail scolaire est indissociable de la forme et des conditions de l'environnement dans lequel il se produit. John Dewey, philosophe et pédagogue américain, soulignait déjà en 1899, dans un livre qui s'appelle « L'école et la société », toute l'importance de cette sphère sociale. L'expérience scolaire se veut donc profitable, tant par les apprentissages formels qui y sont développés, les éléments du programme, les activités réalisées, que par les apprentissages non formels et informels. L'école, en ce sens, demeure une instance de socialisation importante, d'apprentissage sur soi, dans la relation avec les autres et au sein d'une institution qui procure un cadre sécurisé pour cela. Pour Dewey, cela nous invite à réfléchir au lien entre ce cadre scolaire et l'environnement extérieur dans lequel il s'inscrit. Comment former les futurs citoyens à être des acteurs de la société et de leur vie si on les place, et ce pendant un nombre d'années conséquent, dans un cadre qui les rend passifs et dociles. D'autre part, pour que les apprentissages soient profitables, il est nécessaire que l'apprenant puisse faire le lien entre ce qu'il apprend dans l'école et en dehors de l'école. Et pour cela, il faut commencer par accueillir dans l'école les expériences et apprentissages extérieurs. Et ici, eh bien, c'est précisément à l'école de faire le premier pas, de reconnaître et d'accueillir le fait que l'enfant arrive avec de l'expérience et vit des expériences. C'est par exemple ce qu'avait très bien compris Célestin Freinet dès les années 1920 en France, ou encore les pionniers de la pédagogie de l'alternance comme l'abbé Granerot à la fin des années 1930. Ici, le mot d'interface est particulièrement intéressant pour caractériser cette situation parce que l'interface, c'est ce qui permet de faire le lien, ce qui met sur le même plan deux espaces, deux dimensions différentes. Alors, je reviens à la définition. Dire que l'expérience est susceptible d'être apprenante nous pose une question fondamentale. À quelles conditions? Ou pour le dire autrement, toute expérience est-elle apprenante? Pour cela, il faut rappeler que l'expérience, c'est le fait du sujet qui vit. Ce qui fait expérience pour l'un ne le fera pas nécessairement pour l'autre. Et les apprentissages que le premier pourra tirer de cette situation ne correspondra pas nécessairement aux apprentissages que pourra en tirer le second. Et je terminerai pour illustrer cette idée par un exemple que j'emprunte à Rousseau. Alors Rousseau évoque une situation qu'il a observée de l'apprentissage de la géométrie par la consommation de gaufres, afin de comprendre la différence entre le périmètre et l'aire d'une figure. Pour cela, donc, on confectionne des gaufres qui ont un même périmètre, mais de formes différentes, et on les soumet à l'enfant qui, ainsi, par le biais de sa gourmandise, pourra faire l'épreuve de cette notion. Mais alors, nous interpelle Rousseau, qu'en restera-t-il vraiment? L'enfant aura-t-il retenu la leçon de géométrie? Ou, plus prosaïquement, que les gaufres étaient délicieuses, voire que les adultes se donnent parfois de drôles de stratagèmes pour arriver à leur fin?
Expérience. Mise à l'épreuve de quelque chose. Essai, tenter sur quelque chose pour en vérifier les propriétés. Expérimentation. Faire l'expérience d'un médicament.
Alors, cette notion d'expérimentation, elle est intéressante parce que, précisément, dans la langue française, elle se distingue du mot expérience. En tout cas, elle vient préciser une modalité ou une forme d'expérience particulière. Expérimenter, au sens propre, c'est mettre à l'épreuve le savoir, le considérer comme un construit et non comme un acquis. Et la démarche expérimentale est précisément celle qui vise à permettre de mettre en doute les hypothèses ou intuitions que l'on tenait pour acquises afin de les tester et d'en produire de nouvelles. C'est, nous dit le philosophe américain Charles Sanders Peirce, dans un texte célèbre qui s'intitule « Comment se fixe la croyance ?», la mesure la plus sûre, la plus robuste et la plus pérenne pour s'assurer de la valeur de nos énoncés. De ce point de vue, se mettre dans les conditions qui ont permis à d'autres de produire les connaissances nouvelles dépasse le simple cadre de disciplines dites scientifiques. Et on pourrait se demander, eh bien, à l'école, est-ce que cette démarche expérimentale, elle est le seul fait des disciplines scientifiques, ou est-ce que l'on pourrait l'élargir à un ensemble de disciplines, de contenus ou d'objets assez larges? Alors, cette question, elle est importante, en tout cas, elle fait référence dans l'histoire de la pédagogie, notamment aux travaux qu'ont développés les tenants d'un courant qui est celui de l'éducation nouvelle depuis plus d'un siècle. Pour ne citer que ses représentants les plus célèbres, eh bien, on pourrait dire que l'apprentissage de la lecture, dans la méthode développée par Maria Montessori en Italie au début du XXe siècle, relève bien d'une expérience, à la fois au sens sensible de ce qui s'éprouve, que de l'expérimentation, en procédant par essai-erreur, en rectifiant sa démarche et en étant mis en situation de découvrir, ou plutôt redécouvrir par soi-même, les règles et fonctionnements de la langue écrite. Et ici, donc, l'enseignant n'est pas celui qui transmet un savoir, mais plutôt le garant, l'accompagnateur bienveillant d'une démarche d'auto-formation. On pourrait également citer le travail mené par Célestin Freinet, qui va généraliser cette pratique de l'enquête à l'ensemble des objets d'apprentissage. Et je fais référence ici à la thèse de Pierre Jégou soutenue en 2017, qui montrait très bien cet aspect-là d'un point de vue didactique. Alors, toutefois, cet élargissement de la démarche expérimentale à un ensemble très divers de sujets nous pose néanmoins une question. Tout savoir peut-il faire l'objet d'une expérimentation et selon quels critères ou dans quelles conditions? On pourrait notamment ici questionner certaines expériences radicales. Je pense notamment à ce film qui s'appelle La Vague, dans lequel un enseignant aux États-Unis expérimente avec son groupe d'élèves la mise en place d'une dictature afin d'en éprouver les conséquences et de voir jusqu'à quel point, quelles sont les limites et quels sont les effets produits par cela. Et on pourrait ici se questionner légitimement sur la frontière entre l'intérêt d'une telle expérimentation et le danger possible, ou en tout cas les effets potentiellement néfastes qu'elle est susceptible de produire. Toutefois, l'idée essentielle reste celle-ci, c'est que la démarche expérimentale permet l'apprentissage de compétences. C'est avant tout un travail sur ses étonnements, un travail sur la mise en récit, un travail sur la problématisation, un travail sur l'élaboration d'hypothèses, la construction de scénarios, l'identification des apports et des limites. Et donc, cet ensemble de compétences qui permet à l'apprenant de s'inscrire dans un rapport actif à son environnement. Et effectivement, élargir ce rapport expérimental au-delà des disciplines dites scientifiques, c'est à la fois un enjeu pédagogique et didactique, mais on pourrait dire aussi, avec John Dewey, qu'il s'agit d'un enjeu social, au sens où c'est précisément l'apprentissage de ces compétences qui va permettre d'apprendre à faire face aux différentes situations de la vie qui nous entoure, aux situations de la vie sociale. Mais c'est aussi apprendre une chose importante, c'est qu'une expérience réussie, c'est avant tout une expérience qui permet d'ouvrir vers d'autres, de nouvelles expériences, d'élargir l'horizon de nos propres expériences.
Expérience. Ensemble de connaissances pratiques tirées de l'usage. Compétences particulières qui s'ajoutent au savoir théorique et résultent de l'exercice habituel d'une technique, d'un art, d'un métier. Acquérir l'expérience du commerce, des affaires.
Alors effectivement, cette définition, elle vient encore préciser le terme d'expérience, et on pourrait, en l'appliquant au champ de l'enseignement et au métier d'enseignant, poser la question suivante: en quoi l'enseignement est-il un art, une expérience qui s'acquiert peut-être sur le tas, par la pratique, plus ou en tout cas qu'une science théorique que l'on applique? Alors, on pourrait dire, si l'on suit ce que disait John Dewey, que l'on apprend en faisant. Cela a deux implications importantes qui touchent la formation professionnelle de manière plus large, comme celle des enseignants de manière plus particulière. Premièrement, il y a des apprentissages que l'on ne peut faire qu'en situation, lorsque l'on est confronté à la réalité de certaines paroles, de certaines relations, de certains faits. Tout simplement car le réel est toujours débordant, foisonnant, et il est difficile de pouvoir tout anticiper, de pouvoir se préparer à tout. D'où un sentiment qui revient assez régulièrement, notamment dans les propos tenus par les enseignants qui débutent dans le métier. On n'était pas préparé à gérer telle ou telle situation, à faire face à tel ou tel imprévu. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est: si l'on ne peut pas tout anticiper, que faire? Et c'est là qu'intervient la deuxième implication du précepte de Dewey. Apprendre en faisant, cela peut aussi se faire dès la formation. Et ce faisant, Dewey insiste sur une idée forte que l'on pourrait résumer ainsi. non seulement il est impossible de tout anticiper, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas former à gérer toutes les situations, tous les imprévus, tous les cas particuliers. Mais à plus forte raison, vouloir anticiper ou se préparer à un futur, eh bien cela revient à projeter son propre rapport au présent sur un état à venir et encore indéterminé, dont nous ne connaissons pas toutes les possibilités ni toute la singularité. Donc, la seule chose, mais qui devient essentielle, que nous pouvons faire, consiste à se préparer à affronter des situations indéterminées, incertaines, qui débordent nécessairement à un moment le cadre de nos connaissances, pratiques et habitudes antérieures. Travailler sur la posture et la capacité à problématiser, enquêter, expérimenter afin de trouver les solutions qui seront adaptées à ces situations. Et pour conclure, on pourrait dire avec Dewey, notamment dans un petit opuscule de 1929 qui s'intitule « Les sources d'une science de l'éducation » que eh bien, si l'enseignement, l'éducation, la formation reste et restera toujours probablement un art, c'est-à-dire quelque chose qui se construit dans la singularité de ce rapport ou de ces situations, eh bien, c'est un art qui peut néanmoins faire l'objet d'une science afin notamment de mieux comprendre, de mettre en valeur, mais aussi de rendre transmissibles, eh bien, les apports, les acquis et les avancées qu'auront pu faire tels ou tels enseignants qui, par leurs expériences, auront réussi à faire avancer la pédagogie.
Merci Héloïse Marguerite pour cette chronique et Samuel Renier d'avoir accepté de vous prêter à l'expérience de Un mot, un chercheur. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci à Sébastien Boudin en régie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre thématique du jour et sur les chroniques de l'émission sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cadécole. C'est avec un peu d'émotion tout de même que je conclue cet épisode d'IF et quoi, parce qu'après plusieurs années, Claire Jornalengo et de nombreuses et passionnantes chroniques biblio, où vous nous avez présenté des pièces d'archives de la bibliothèque d'Hydro, vous nous quittez aujourd'hui. Mais heureusement pour nos auditeurs et auditrices, toutes vos chroniques sont réécoutables dans les anciens épisodes d'IF et quoi. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour toute l'équipe de Cadécole de vous compter parmi nous. On vous souhaite bon vent et à nos auditeurs et auditrices, je dis rendez-vous à la rentrée.